Chapitre 7e. Vers cette époque, je trouvai une chambre chez une vieille dame qui ignorait, aussi étrange que cela paraisse, qu'il existât des règlements de police. C'était surprenant de trouver une femme qui ne soupçonna même pas que la police pût s'occuper d'elle, qui s'imaginait que les honnêtes gens n'avaient jamais affaire à la police. Elle vivait comme j'avais vécu moi-même avant la guerre. Elle eût été étonnée, puis indignée, si l'on était venu lui poser la moindre question. Elle s'imaginait que personne au monde n'avait le droit de lui poser de questions, de demander des explications à l'un de ses actes, de pénétrer chez elle, etc. Elle s'imaginait qu'elle était libre de faire ce qui lui plaisait. Si quelqu'un dans son entourage avait affaire avec la police, il ne lui venait pas à l'esprit qu'il pût en être de même avec elle. Ces gens avaient plus ou moins quelque chose sur la conscience. Cette naïveté me mettait mal à l'aise. Quand je me trouvais chez des gens capables de se défendre, cela m'était égal d'être un danger pour eux. Je n'avais aucun scrupule de les compromettre. Mais chez une pauvre femme si confiante, j'éprouvais la sensation pénible de la tromper, au point que j'avais failli m'en aller à peine arrivé. Mais je ne tardais pas à me rendre compte que si j'attachais tant d'importance à l'honnêteté, je me fermerais tous les endroits où je serais le plus en sécurité. Une alternative se présenta à moi. Ou ne vivre qu'avec des bandits, et au risque que je courais personnellement, ajouter ceux qu'ils couraient eux, ou tromper les gens paisibles et en vivant avec eux risquer de les entraîner dans mes malheurs. Enfin, j'étais chez cette vieille dame. Je n'avais qu'à y rester. Elle n'était peut-être pas aussi bonne que je l'avais pensé, ni moi aussi méchant. On ne m'arrêterait pas. Tout finirait comme partout. Je n'avais qu'à acquérir une âme de commis-voyageur qui ne souffre plus quand on le met à la porte. J'acceptai donc les gentillesses de cette vieille dame, et ce, bien qu'il y eût cette ombre qu'un jour elle pourrait apprendre que je n'avais eu aucun remords à lui faire courir les pires dangers. J'agissais comme si cela ne devait jamais arriver, et pourtant elle m'était bien sympathique. Je me trouvais chez elle depuis une semaine, lorsque son fils fut libéré en tant qu'appartenant au corps médical. Je n'avais jamais dit que j'avais été prisonnier. Dans une défaite, le passé militaire n'éveille aucune curiosité. Personne ne vous demande ce que vous avez fait. « Maurice sera très content de vous connaître, monsieur de Talouet, » m'avait dit la vieille dame. Ce fils arriva enfin. Il s'exprima sur sa captivité comme un prisonnier qui, au lieu de vituperer sur ses geôliers, verrait d'abord leur parfaite correction. Il avait cet air des gens auxquels il est arrivé un événement tellement important qu'ils trouvent naturel que la terre entière soit suspendue à leurs lèvres. Évidemment, il avait des droits. Il le montrait bien d'ailleurs dans sa façon de laisser tout faire pour lui. Mais après tout, son cas était beaucoup moins intéressant que le mien. Je lui trouvais l'air prétentieux de ceux qui parlent de choses que leur auditoire connaît mieux qu'eux. Il était arrivé avec des valises comme un civil. Il les avait posées dans le vestibule, laissant à d'autres le soin de les ranger. Quand on rentre chez soi et qu'on trouve un étranger, il vous est rarement sympathique. Ce garçon, lui, me témoigna tout de suite beaucoup d'amitié. De temps en temps, il jetait pourtant sur moi un regard méfiant. Tout ce qu'il disait, il le disait sur le ton d'un homme qu'on ne peut pas contredire. Tout le monde ne pouvait pas avoir été fait prisonnier. On sentait cependant qu'il avait un profond mépris pour ceux qui n'avaient pas connu la vie des Oflags. Il avait l'allure d'un homme qui sort de l'endroit même où le sort du monde est en train de se décider. Il nous disait ce qui se passait vraiment. Il ne fallait pas s'imaginer que les prisonniers ne diraient pas leurs mots. Il demanderait des comptes aux responsables, mais à aucun moment on ne sentait chez lui que les Allemands avaient une part dans cette responsabilité. Puis il parlait des Juifs, des francs-maçons, des Anglais, des communistes, ainsi que des mauvais Français, ceux notamment qui s'évadaient sans tenir compte des représailles qui s'exerçaient sur les braves types qui étaient restés. À ce moment, je ne regrettais plus de n'avoir pas parlé de mes aventures. Il ne se changeait toujours pas. Il gardait son uniforme d'étain, avec ce ridicule écusson de velours des officiers pharmaciens, avec les culottes, les leggings, et je comprenais, en voyant ce qui restait de la splendeur militaire passée, combien elle avait été arrogante. Il avait des poches coupées, non pas comme celles des soldats ou des civils, verticalement sur le côté, mais en travers sur le devant, et la main qu'il mettait dedans avait cette vulgarité d'une main glissée entre la ceinture et la chemise. Je passais des après-midi entières dans des quartiers lointains où je n'avais jamais mis les pieds, tellement je sentais que ma présence chez sa mère lui portait sur les nerfs. Je m'imaginais que là où moi-même je me sentais perdu, j'étais perdu pour autrui. Mais à force d'être seul, de ressasser tout le temps la même chose, je devenais de plus en plus nerveux. Je ne pouvais plus vivre ainsi. Cette perpétuelle crainte d'être fusillé finissait par dérégler mon imagination. Je me voyais parfois transporté dans l'avenir, devenu un promeneur du dimanche visitant ma chambre comme on visite un musée. Il y avait beaucoup de monde. C'était là que j'avais été arrêté. Un gardien expliquait comment les choses s'étaient passées. J'avais essayé de sauter par la fenêtre. On m'avait rattrapé à temps. Une bagarre avait suivi. J'avais roulé à terre. Finalement, on m'avait réduit à l'impuissance. Les visiteurs regardaient avec intérêt les débris de faïence, les meubles et les glaces cassées, car le désordre avait été respecté avec le même soin que la disposition du cabinet de travail d'un grand homme. Je dois dire que le sentiment de la célébrité de l'endroit où avait pris fin ma vie, je l'avais déjà éprouvé 10 ans auparavant, au moment où j'avais eu cette fameuse pleurésie dont j'ai parlé et où j'avais cru que j'allais mourir. Parfois je me disais que je n'avais qu'à partir sans rien dire. Pourquoi prendre la peine de laisser une bonne impression de soi? Je me rendais pourtant bien compte que cette conduite était imprudente. Je pouvais un jour tomber sur des gens qui connaissaient ceux que j'avais quittés de façon plus ou moins correcte. Paris a beau être grand, on n'y est pas à l'abri de ces hasards. J'avais fait une constatation assez inquiétante. Depuis l'occupation, il y avait beaucoup plus de coïncidences qu'avant. Quelque chose faisait que Paris semblait s'être rapetissé. J'allais, je venais comme un homme qui n'a rien à se reprocher. Mais un jour, j'eus la sensation que pendant que je m'abandonnais ainsi, j'étais complètement à découvert sans le savoir, qu'on me voyait marcher, qu'au moment même où je me croyais un individu perdu dans une grande ville, on procédait à toutes sortes de préparatifs en vue de mon arrestation. Une bouffée de chaleur me monta à la tête. Je regardais à gauche, à droite. Il y avait tant de gens partout qu'il m'était impossible de savoir si l'on me suivait ou non. Je n'eus alors plus qu'une idée, m'isoler. Je pris une petite rue, puis une autre. Enfin, j'étais seul. Je m'arrêtai. Un passant s'engageait de temps en temps dans cette ruelle. Je le regardais avec attention et j'éprouvais chaque fois un immense soulagement devant son indifférence pour ma personne. Mais il arrivait qu'un homme inquiétant s'approcha parfois, un homme vêtu comme moi, dont il était difficile de déterminer la profession. Même cet homme ne me regardait pas. Je dois dire ici que par la suite, quand je n'ai plus rien eu à craindre de personne, il m'est resté que lorsque je rencontre des gens ayant l'aspect louche que j'avais eu moi-même, je leur rends leur gentillesse en ne faisant pas plus attention à eux qu'ils ne le faisaient à moi, comme si cela pouvait leur faire le même plaisir que cela m'avait fait. Ce fut au cours d'une de ces interminables journées que je fis la connaissance de Germaine Puech. Je m'étais assis sur un banc dans un petit square. Des enfants jouaient. Mais en conséquence de cette manie d'avant-guerre, il n'y avait plus de place, tant on avait voulu mettre de choses pour le bien de tous, un portique, 2 kiosques, une plateforme, des bancs supplémentaires, une enceinte de ciment dans laquelle se trouvait du sable. Les gens avaient dû se serrer pour me faire une place, et ce qui m'avait été au cœur, c'était la complaisance avec laquelle on l'avait fait. Je regardais les enfants jouer. Parfois ils se faisaient mal. Je m'étonnais qu'ils ne s'en fissent pas davantage, tant étaient désordonnés leurs mouvements, tant les dangers auxquels ils s'exposaient leur échappaient, dangers que moi, de ma place, je voyais. Il n'en était un notamment qui me faisait trembler, celui d'un râteau à dents de fer et assez grand, avec lequel un enfant menaçait ses camarades. Sa mère l'avait secoué en lui disant de lâcher ce râteau. L'enfant avait jeté le râteau au loin et déjà il s'en était fallu de peu que celui-ci n'atteignît quelqu'un. Et ce râteau restait maintenant sur le sol, les dents en l'air, cependant qu'autour on courait, on se poussait, on tombait. Je pensais qu'un enfant allait tomber dessus et que si c'était la figure en avant, il risquait de se crever les yeux. Mais les mères, qui faisaient tant d'histoires pour une tache de chocolat sur les doigts, ne bougeaient pas. Je me dis qu'elles savaient mieux que moi ce qu'il fallait faire, et que comme toujours je voyais des dangers là où il n'y en avait pas, et en effet, elles avaient raison puisque personne ne se blessa. Une femme était assise à côté de moi. Elle n'avait aucun jouet qui eût pu me laisser croire qu'elle était la mère d'un de ses innombrables enfants. Elle avait des cheveux noirs plats, qui lui cachaient une partie de la joue, des yeux d'un marron trouble, des dents blanches, mais dont les canines étaient extraordinairement pointues. Elle était pauvrement et négligemment vêtue. Je ne sais pourquoi, mais cette femme me paraissait profondément heureuse. Elle était assise comme quelqu'un qui ne veut parler à personne, mais que la vue de la maternité, de l'enfance, intéresse. De temps en temps, quand un enfant faisait une espièglerie, elle souriait à la mère, mais de façon tellement étrange, comme si ce n'était ni à cette mère particulière, ni à cet enfant qu'elle songeait, mais à une vie lointaine qu'elle avait menée ou qu'elle aurait voulu mener, sans attendre de réponse à son sourire, sans paraître souffrir de cette sorte d'activité égoïste des mères, faite de claques, de cris, de recherche d'objets perdus. Je liais connaissance avec cette femme. Elle était gouvernante. Elle gardait justement l'un de ses enfants. Je lui fis part de mes craintes. Elle se mit à rire. J'appris peu après qu'elle s'appelait Puech. Je lui demandai s'il était parente d'un homme politique de ce nom. C'était un nom que je connaissais vaguement, qui me semblait aussi celui d'un artiste connu. Elle me répondit qu'il y avait en effet un député qui avait porté ce nom, qu'il était de Rodez comme elle, que ce nom était très répandu là-bas, mais qu'il n'était pas de la même famille. Deux jours plus tard, j'allai habiter dans la chambre de bonne qu'elle occupait au sixième étage de l'immeuble de ses maîtres, sans discerner très bien si cette faveur était due à de l'amour ou à un besoin désintéressé de protection.